Chapitre 17. Le 14 juillet 1858, j'étais depuis plus de 2 mois, on s'en souvient, attaché à la rédaction du Spectateur quand eut lieu l'attentat de l'Opéra contre l'Empereur. Le soir de ce jour, notre directeur politique, Malac, envoya à l'imprimerie, pour le numéro du lendemain, un article appréciant ce grave événement et dans lequel il développait la thèse que voici. Ce n'est que sous les gouvernements despotiques qu'on pouvait voir des crimes tels que celui qui venait d'être commis par Orsini. Le despotisme appelle et provoque la révolution. Protégés par leurs droits héréditaires et l'amour de leurs sujets, les souverains légitimes, placés à la tête d'un pouvoir rigoureusement constitutionnel, n'ont pas à craindre les assassins. Le double inconvénient de cette thèse éclate à tous les yeux. Elle est contraire à la vérité historique et, dans la circonstance, elle exposait le journal au moins à un avertissement, sinon à une suppression immédiate. Les collaborateurs de Malac lui en firent l'observation, mais il ne voulut rien entendre. Le gérant, représentant la propriété, ne fut pas plus heureux. Après avoir soutenu contre lui une discussion d'une extrême violence, Malac passa une partie de la nuit à l'imprimerie afin d'être assuré que son article serait publié. Le lendemain, en arrivant au journal à l'heure ordinaire, j'y trouvai la rédaction au grand complet, les membres du comité, les actionnaires, tout ce monde, la mine concernée. Un décret impérial portant approbation d'un rapport du ministre de l'Intérieur Billot prononçait la suppression du Spectateur en même temps que celle de la Revue de Paris que dirigeaient alors Laurent Pichat, Louis Hulbach et Maxime Ducamp. C'était un rude coup pour la politique fusionniste que représentait le Spectateur. Mais c'était un désastre véritable pour mon frère et moi. Justement, j'avais obtenu qu'on essaierait de lui pour la chronique et je ne sais même plus si son premier article n'était pas déjà fait. Heureusement, le désastre fut bientôt en partie conjuré. L'Union héritait les abonnés et les rédacteurs du journal supprimé. Je fus ainsi versé dans la feuille légitimiste, avec des appointements, il est vrai, notablement diminués. « Nous sommes pauvres, m'avait-on dit, mais suffisants encore pour nous donner du pain. » Je restai là quelques mois, puis on me demanda d'aller à Blois remplacer provisoirement le rédacteur en chef de la France centrale. Quand je revins, ma place était prise, on ne me la rendit pas. J'en éprouvai une vive indignation. J'avais 22 ans, beaucoup d'ambition, l'énergique volonté de contribuer à reconstruire le foyer détruit, et ce n'est pas en mourant de faim au service d'un parti qui ne savait même pas retenir les jeunes, ou en écrivant les mémoires d'un vieux gentilhomme de la chambre de Charles X, dont j'étais devenu le secrétaire, que je pouvais réaliser mes desseins. L'Empire était en pleine prospérité, il ne m'inspirait aucune répugnance. N'ayant pas connu les horreurs du coup d'État, je ne pouvais partager les rancunes des vaincus. Toute une génération, qui depuis a cruellement expié son erreur et son inexpérience, a pensé vers ce temps-là ce que je pensais moi-même. C'est ainsi que j'allais frapper à la porte du vicomte de la Guéronnière, qui dirigeait alors le service de la presse au ministère de l'Intérieur. Cet aimable homme, qui aurait laissé dans l'histoire de son pays une trace profonde, si son caractère eût été à l'égal de son talent, me reçut à merveille. Je lui contai mon cas, et quelques jours après, il m'envoyait à Privas pour y prendre la rédaction en chef de l'Écho de l'Ardèche, en me promettant de me rappeler bientôt. Privas, après Paris, une humble feuille de province, après un des grands organes de la presse française, quelle chute ! Et puis, quitter mon frère, quelle tristesse! Il fallut se résigner cependant. Je partis, soutenu par l'espoir de revenir, consolé aussi parce que cet éloignement de Paris me rapprochait de ma mère toujours à Nîmes et d'un autre être cher à mon cœur qui allait, à peu de temps de là, porter mon nom. C'est à Privas que j'appris les débuts d'Alphonse Daudet au Figaro. J'avais connu Villemessant pendant mon court séjour à Blois où il venait souvent. Invité à passer 2 jours dans sa belle propriété de Chambon, je lui avais parlé de mon frère, qu'il connut bientôt et dont il prisa vite les qualités. Ce fut une grande joie. Le Figaro, c'était pour un écrivain comme une consécration, un brevet de talent, la porte des éditeurs ouverte. Mon frère a commencé là sa réputation, d'abord avec des chroniques en vers, des études en prose, des scènes dialoguées, le roman du Chaperon rouge, les rossignols du cimetière, l'amour trompette. Puis, avec ses récits continués, là et ailleurs, pendant plusieurs années, empreints d'un charme si doux dans leur brièveté qu'ils lui ont créé, avant même qu'il songeât à écrire des œuvres de longue haleine, un rang à part dans la littérature contemporaine. Ces fins morceaux, dignes de figurer dans un recueil classique, on peut les relire aujourd'hui dans les Lettres de Montmoulin, dans les Contes du lundi, dans Robert Helmont, dans les Femmes d'artistes, dans les Lettres à un absent. Tenant à la fois de la fantaisie et de l'histoire, ils portent au plus haut degré la marque révélatrice de l'état de son esprit à l'heure où il les écrivit. Tantôt, il y laisse son imagination folâtrée à travers champs, butiner au gré de son caprice, sous le soleil, dans l'air tiède du midi, tout embaumé de l'odeur des pins pignons, qu'il écoute chanter sur les sauvages rochers de Provence. Tantôt, il ressuscite les souvenirs de ses voyages, durant lesquels il a vu hommes et choses, avec le regard mystérieux et sûr de son esprit habile à les interroger et à les observer. Tantôt, enfin, au spectacle des malheurs de son pays, il laisse éclater son âme, déchirée par une angoisse patriotique ou gonflée d'une sainte indignation. Rires et pleurs, la gamme est complète sur cet harmonieux clavier. Toutes les notes y sont. Là aussi sont en germe quelques-unes des œuvres qu'il écrira plus tard, l'Arlésienne, le Nabab, Jacques. On les y trouve en 1013 épas, sous leur forme première résumée, telles qu'il les avait vues d'abord, avant que le travail de son esprit en eût tracé les lignes et classé les développements. Le succès de ses études, qui n'ont guère d'analogue dans les lettres françaises, fut très vif. Les échos m'en arrivèrent dans mon lointain exil, où mon frère me les confirma ensuite en venant passer quelques semaines auprès de moi, et où, comme pour me prouver que la vie allait commencer à nous sourire, il m'apporta une grande nouvelle. Ayant eu l'occasion de rencontrer le comte de Morny, ce personnage, le plus puissant entre les puissants du jour, séduit par son talent, lui avait promis un emploi dans les bureaux de la présidence du corps législatif, un de ces emplois que les grands seigneurs créaient jadis pour les gens de lettres pauvres et qui permettaient à ceux-ci de travailler librement, dégagés des préoccupations de l'existence matérielle. Mon frère devait en prendre possession dès sa rentrée à Paris. « Je suis légitimiste », avait-il objecté fièrement aux offres bienveillantes de son nouveau protecteur, et celui-ci de répondre en riant « L'impératrice n'est plus que vous ». C'est tout ce que je dirais des relations d'Alphonse Daudet avec M. de Morny, ne voulant pas déflorer la partie de ses mémoires qu'il y consacrera. La certitude d'être protégé par lui alluma nos espérances et nous fit voir l'avenir sous un jour tout rose. Le séjour de mon frère à Privas se ressentit de cette confiance. Nous passâmes là de belles vacances, nous fîmes ensemble de longues excursions dans les montagnes. Puis il me quitta pour aller à Nîmes, d'où il se rendit en Provence, dans l'hospitalière maison de Fontvieille, d'où pourrait être datée la première des lettres de Montmoulin. C'est pendant ce voyage qu'il connut Frédéric Mistral, Théodore Aubanel, Roumanie, tous les faits libres, et se lia avec eux d'une amitié que le temps n'a pas ébranlée. En rentrant à Paris, il alla prendre sa place au cabinet du président du corps législatif. Dès ce moment, mes regards se tournèrent avec persévérance vers le palais Bourbon. Je périssais d'ennui à Privas, j'étais résolu à n'y pas prolonger mon séjour, et mon frère m'avait promis de m'aider à en abréger la durée. Justement, une occasion s'offrit bientôt à lui de tenir sa promesse, il s'en empara. Le gouvernement impérial préparait alors les grandes réformes qui reçurent leur application au commencement de 1861. Une liberté relative allait être rendue aux chambres. M. de Morny, comme président du corps législatif, s'occupait d'augmenter le personnel des secrétaires chargés de la rédaction des comptes rendus des débats. Il y avait deux emplois à donner. Pour l'un, il avait déjà fait choix de Ludovic Halévy, qui préludait, par de modestes essais, à sa brillante carrière d'auteur dramatique. Mon frère me proposa pour l'autre et me fit accepter, au moment où, sans attendre qu'il m'appelât, je venais d'arriver à Paris, poussé par le pressentiment de ma bonne fortune. « Le président veut te connaître, me dit-il un soir. Il te recevra demain matin vers 7 heures. » « Vous pensez si je fus exact ? À 7 heures, un fiacre me déposait devant le perron de la présidence. Convaincu qu'on approche les grands de ce monde qu'en habit noir et en cravate blanche, je m'étais vêtu comme au jour de ma première course à travers Paris. On était en novembre, il ne faisait pas encore très clair, ma tenue ne produisit aucun effet dans les antichambres présidentielles, ou plutôt, elle en produisit un déplorable, car ce ne fut qu'après que j'eus déclaré mon nom que les huissiers daignèrent se montrer polis. L'un d'eux me conduisit dans le salon chinois et me pria d'attendre. Une merveille, ce salon, avec ses collections, ivoires et jades sculptés, bronzes ventrus, jonques et pagodes en miniature, chimères monstrueuses, dieux accroupis, paravents à ramages d'or. Le malheur est qu'on m'y oublia. À 1 heure, je n'avais pas été reçu. Mon estomac criait famine. J'allais de la croisée à la cheminée, de la cheminée à la croisée, dévoré d'impatience, moulu, le linge collé aux reins, à force de m'être traîné sur tous les meubles. Vint un moment où, n'en pouvant plus, je me mis devant une glace pour réparer le désordre de ma toilette. J'étais en train de procéder à cette opération délicate, avec la liberté d'un homme qui sait qu'on ne se souviendra plus de lui, quand soudain une porte s'ouvrit. Éperdu, je croisai mon habit sur mon gilet déboutonné. Mais déjà, je me retrouvais seul, après avoir vu passer un flot de soie, un profil de blonde et la fumée d'une cigarette. Je sus ensuite que c'était Madame de Morny. Elle avertit son mari. Il entra brusquement, serré dans son veston de velours bleu, sa calotte noire sur le crâne nu. « Qui êtes-vous? Que faites-vous là ?»« Je me nommai. »« Ah, mon pauvre garçon, je vous ai oublié. » « Eh bien, votre frère m'a parlé de vous. Vous voulez être secrétaire-rédacteur. Il paraît que les questions politiques vous sont familières. Vous êtes nommé. Allez voir M. Valette, le secrétaire général. Il vous présentera à M. Denis de Lagarde, votre chef de service. » L'audience ne dura pas 3 minutes, mais je ne regrettais pas ma longue attente. Elle m'avait porté bonheur. Je n'eus qu'à descendre à l'entresol pour rencontrer mon frère et lui annoncer la réussite de ses efforts. Il vivait là, côte à côte avec Ernest Lépine, qui dirigeait alors le cabinet de M. de Morny et préparait, dans ses graves occupations, agréablement entrecoupées de passe-temps artistiques, les futurs succès du très spirituel Quatrel. Il caressait à cette heure, avec Alphonse Daudet, les projets de collaboration qui se sont successivement réalisés avec la dernière idole, l'œillet blanc, le frère aîné. Quelques fruits qu'elle ait donnés, cette collaboration n'a pu cependant convaincre Alphonse Daudet de l'efficacité du travail à deux quand il s'agit d'œuvres littéraires. Il est resté persuadé qu'en dépit de la conscience de deux écrivains attelés au même livre ou au même drame, quand vient l'heure d'en recueillir le bénéfice moral, il y a un dupé et depuis ce temps, il a renoncé à toute tentative de ce genre. Il a recouru, il est vrai, aux bons offices de ses confrères quand il a voulu tirer une pièce de Fromont Jeune et Risler Aîné d'abord, du Nabab ensuite, mais il ne s'agissait là que d'un classement de scènes déjà faites, quelque chose comme un dégrossissement, une mise au point où la part du collaborateur était trop réduite pour qu'il pût s'élever un doute sur la véritable paternité du succès. De mon entrée au corps législatif date ma véritable existence de Parisien, d'homme de lettres et de journaliste. Les sessions étaient brèves. Elles duraient 3 ou 4 mois et me laissaient des loisirs entièrement consacrés à des travaux de plume. Je me propose de raconter un jour ce que j'ai retenu de ce voyage de 20 années à travers le monde de la politique et de la presse. Je n'y veux faire allusion ici que pour rappeler un épisode de ma vie auquel mon frère demeura étranger et dont je ne parlerai pas si, plus tard, on ne l'y avait associé à propos de son roman « Le Nabab ». En 1863, j'étais au corps législatif depuis 2 ans. Correspondant de 2 grands journaux de province, j'appartenais aussi à la rédaction de La France, dirigée alors par le vicomte de la Guéronnière, et où je venais d'inaugurer les échos parlementaires. Déjà, mon nom avait acquis quelque notoriété. Un bon vent enflait mes voiles, le foyer paternel était reconstruit, le mien s'élevait. C'est un des plus heureux moments de ma vie. Au cours des élections générales qui eurent lieu cette année-là, je me trouvais à Nîmes en vacances. Un de mes amis me conduisit chez le Nabab, c'est-à-dire chez François Bravet. Il arrivait d'Égypte et se présentait aux électeurs de l'une des circonscriptions du Gard. Pour assurer le succès de sa candidature, il avait promis aux populations de ces contrées un canal d'irrigation qui devait fertiliser leurs sols, stérilisés par le manque d'eau. Cette promesse fut jugée plus tard par le corps législatif comme une manœuvre électorale dont le souvenir pesa toujours sur François Bravet, même lorsque, après deux invalidations successives, élu pour la troisième fois, il força les portes du Palais Bourbon. Elle était pourtant sincère. Il avait rendu effective en versant 1 000 000 en belles espèces sonnantes pour pourvoir aux dépenses des premiers travaux. Il connaissait mes relations avec les journaux de Paris, il me demanda de soutenir sa candidature. Puis, quand il eut été élu, porté à la Chambre par l'enthousiasme des populations qu'excitait sa réputation de millionnaire et sa générosité, servi par une parole chaude, fruste comme sa personne, mais bien faite pour être comprise par des ruraux, il me proposa de devenir son secrétaire politique. J'acceptai et n'eus pas à m'en repentir. Je n'ai pas connu de plus honnête cœur. C'est un de mes regrets de n'avoir pas possédé l'influence nécessaire pour lui imposer mes conseils et lui faire comprendre combien valaient peu quelques-uns de ceux qui l'entouraient. Ses fréquents voyages en Égypte, l'emballement de son existence, toujours tiraillé entre les solliciteurs et les besoins d'argent créés par leurs exigences, faisaient le plus souvent de ma fonction près de lui une véritable sinécure. Mais tant qu'il est resté député, il ne me l'a jamais rappelé. Il s'est toujours souvenu de l'ardeur avec laquelle j'avais embrassé ses intérêts. Parmi mes amis, il est un de ceux à qui je me suis le plus passionnément dévoué et je n'ai jamais cessé de croire qu'il était digne d'inspirer cette sympathie. Son malheur a été, parti de très bas, de s'être enrichi trop vite par des procédés familiers à tous ceux qui sont allés chercher fortune en Orient, d'être revenu en France sans rien savoir de Paris, ni du milieu nouveau dans lequel il allait vivre, et où, pour cette cause, il devait se ruiner aussi vite qu'il s'était enrichi là-bas. Le portrait que mon frère a tracé de lui, dans un livre inoubliable, ne me laisse rien autre à dire, si ce n'est qu'en parlant de l'exquise bonté de cette âme toute naïve, en dépit des apparences contraires, l'auteur du Nabab n'a rien exagéré. Pour ceux qui ont connu et aimé François Bravet, le roman dont il est le héros est l'œuvre la mieux faite pour rendre hommage à sa mémoire et la venger de calomnies ineptes. Il suffit pour s'en convaincre de lire la dernière phrase. Ses lèvres remuèrent et ses yeux dilatés, tournés vers De Géry, retrouvèrent avant la mort une expression douloureuse, implorante et révoltée, comme pour le prendre à témoin d'une des plus grandes, des plus cruelles injustices que Paris ait jamais commises. Comment donc se peut-il qu'une malveillance calculée ait tenté de faire accroire que tant de pages éloquentes constituaient une insulte à sa mémoire et qu'en moment, les proches de François Bravet aient partagé cet injuste sentiment ? Je ne suis pas encore parvenu à le comprendre. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'ils aient voulu prouver que mon frère avait commis un acte de noire ingratitude. À l'époque où il eut à se défendre sur ce point, il me pria de ne pas intervenir. Cette polémique toute personnelle, étrangère au mérite intrinsèque de son œuvre, blessait trop ses délicatesses littéraires pour qu'il voulût la compliquer de mon intervention. Mais aujourd'hui, j'ai recouvré la liberté de dire qu'Alphonse Daudet n'était engagé avec François Bravet par aucun souvenir qui entrava son droit de romancier. C'est à peine s'il l'avait vu à 2 ou 3 reprises, et encore que cette vision rapide lui eût suffi pour juger l'homme et son milieu, complétée par ce qu'il savait déjà ou ce qu'il en apprit ensuite, elle ne pouvait être assimilée à un de ses services qui condamnent au silence celui qui l'a reçu. Mon frère pouvait donc écrire le Nabab quand moi-même, si j'avais eu le talent pour le faire tel, je l'aurais fait et signé sans croire manquer à un devoir. »